Bienvenue à tous dans le mag de l'été.
Je passais des journées et des nuits entières dans l'atelier, à rechercher une danse qui fut, par les mouvements du corps, l'expression divine de l'esprit humain. Pendant des heures, je demeurais debout, immobile, les mains croisées entre mes seins, à la hauteur du plexus solaire. Ma mère s'alarmait souvent de me voir ainsi immobile et comme en extase. Mais je cherchais, et je finis par découvrir le ressort central de tout mouvement, le foyer de la puissance motrice, l'unité dont naissent toutes les diversités du mouvement, le miroir de vision d'où jaillit la danse, toute créée. C'est de cette découverte que naquit la théorie sur laquelle je fondais mon école.
Bonjour Agathe Bonitzer.
Bonjour Anna Svielevitch.
Quel est le texte que vous venez de nous lire ?
C'est un extrait de Ma vie de Isadora Duncan.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Mag de l'été, le magazine culturel de vos débuts de soirée sur France Inter. Après moult péripéties, dont je vous épargnerai les détails pourtant dignes d'une comédie rocambolesque, l'équipe du Mag de l'été a enfin posé ses valises au Festival international du film de Locarno pour deux émissions en direct. Locarno est une magnifique petite ville suisse-italienne dans les Alpes du Sud, au pied du lac Majeur, où se déroule chaque année un grand festival qui célèbre le cinéma d'auteur venu du monde entier. Depuis sa création en 1946, c'est un cinéma indépendant, libre, souvent politique, en tout cas toujours en dehors des logiques de marché qui est soutenu ici, où ont été découverts des cinéastes comme Raoul Ruiz, Michael Haneke, Abbas Kiarostami ou encore Éric Rohmer. Aujourd'hui, du cinéma français au programme avec Agathe Bonitzer, vous l'avez entendu, qui est à l'affiche des Enfants d'Isadora de Damien Manivelle. En seconde partie d'émission, nous serons avec Jeanne Balibar, Emmanuel Béart et Mathieu Amalric pour Merveille à Montfermeil, le premier film réalisé par Jeanne Balibar. Et pour ouvrir les festivités, nous avons le plaisir de nous entretenir quelques minutes avec la directrice artistique du festival, Lily Instinct, dont c'est la première édition cette année.
France Inter. Duh. Le Mag de l'été. Anna Sigalevitch.
Bonjour Lily Instinct.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Alors vous prenez la tête après les 6 années de direction de Carlo Chatrian dans haut lieu du cinéma. Que symbolise pour vous le Festival de Locarno ?
Pour moi, le Festival de Locarno, c'est le lieu, c'est un festival absolument unique parce que je pense que c'est un des seuls festivals du monde qui peut présenter une programmation aussi pointue, aussi radicale à un public aussi nombreux. Tous les soirs sur la place de la ville,
il y a la Piazza Grande.
La Piazza Grande, il y a des projections en plein air avec 8000 places sur le plus grand écran d'Europe. Et tous les films en compétition ont lieu dans une salle qui fait presque 3000 places. Et c'est un public très varié, enfin, c'est ce qu'on appelle le grand public.
Le grand public, c'est ça, c'est la particularité, c'est que contrairement par exemple à un festival de Cannes, par exemple, c'est un festival qui est autant destiné au public qu'aux professionnels du cinéma.
Exactement, on accueille environ 1500 professionnels, donc il y a aussi toute une partie du festival qui est consacrée à une sorte de communauté cinéphile de l'industrie du cinéma mondial, mais c'est aussi un festival où on lance les films devant un très nombreux public.
Alors, quelle grande ligne au pluriel vous avez dessinée donc pour votre première édition ?
Alors, on me pose souvent la question. Oui. C'est vraiment difficile d'avoir du recul. Moi, je dirais, c'est plus facile pour moi de raconter la façon dont j'ai travaillé parce que j'ai pas construit ma programmation en projetant à l'avance un dessin que j'aurais décidé, mais plutôt j'ai essayé. Enfin, moi, je dirais que le travail de programmation, c'est interpréter l'histoire d'un lieu et programmer, enfin, être capable d'actualiser, enfin, de rendre présent, surtout pour un festival comme Locarno qui a une histoire de découverte de têtes chercheuses très forte. Et donc,
C'est plutôt comme ça. Bah alors, du coup, moi, je peux dire, comme en tout cas, comme en regardant le programme que vous avez imaginé, par vos choix, on sent en tout cas une volonté de grande ouverture. Par exemple, avec l'hommage que vous consacrez à John Waters, là, c'est une chose qui vous raconte, me semble-t-il, parce que c'est un cinéaste qui est à la fois sulfureux, qui a été très important dans les années 70-80, qui fait encore des films. Et vous dites une chose, vous dites quand même que c'est comme un manifeste de convoquer ce cinéma ici, donc un cinéma qui n'est pas politiquement correct et que vous revendiquez Lily Einstein.
Oui, c'est vrai. Je pense que aussi, étant donné l'exposition qu'a le festival, la taille qu'il a et l'exposition qu'il donne au film, on a une forme de responsabilité politique. Mmh. Et je pense que ça fait partie de notre travail de lutter contre les clichés, le politiquement correct, les espèces de doxa, qu'elles soient esthétiques ou politiques. Et John Waters, c'est un cinéaste qui a complètement redéfini des questions de normes. Et ça a pris longtemps, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est vrai que il y a toute une partie de la programmation qui est pensé suivant cet axe. Par exemple, c'est la première fois que le prix Excellence Award pour le meilleur comédien va être remis à un acteur asiatique.
Asiatique, à Song Kang-ho. Alors, il faut dire que vous avez choisi de lui remettre ce prix au mois de janvier, donc pas de Palme d'Or à l'époque pour Bong Joon-ho, pardon. Et vous avez été la première à organiser une rétrospective du cinéma de Bong Joon-ho. Donc voilà, c'est tout sauf de l'opportunisme, hein, le fait que ce soit aujourd'hui au Festival de Locarno.
Exactement, et j'en suis très fière.
vous pouvez, en effet. D'ailleurs, je précise qu'on sera avec lui demain dans le Mac de l'été. Alors, il y a une autre chose, moi, qui me paraît aussi intéressante, c'est le fait que il y a une grande place qui est donnée à la jeunesse, à la fois en faisant ce que vous appelez des crazy nights, hein, dans la deuxième partie de soirée sur la Piazza Grande, vous allez nous en parler, et aussi, vous avez créé une chose que je trouve intéressante, c'est une sorte de carte spéciale pour les jeunes de Basecamp, où quand on a moins de 30 ans, pour 100 francs suisses, on peut être logé pendant une semaine, avoir une accréditation et avoir des petits déjeuners.
Oui, il y a même le petit déjeuner. Oui, le Basecamp, c'est vraiment un projet que j'aime énormément cette année. Donc, c'est une ville à côté de Locarno, la ville de Lausanne, qui a mis à disposition une ancienne caserne militaire. On a mis 200 lits dedans. On a à la fois invité plein d'étudiants d'écoles suisses ou internationales, et pas seulement de cinéma. Ça rassemble plein de jeunes gens. Il y a aussi des gens qui font du design ou de la mode. Il y a des informaticiens. Il y a des gens des beaux-arts. Il y a aussi, par exemple, les jeunes gens du sud-est asiatique qui présentent un court-métrage à Open Doors et qui avant pouvaient pas forcément assister au festival.
Oui.
Il y a vraiment une espèce, de communauté.
De communauté que vous êtes en train de créer ici à Locarno.
Exactement.
Il y a un instant, je sais que vous devez filer parce que vous devez présenter une projection, donc on vous laisse filer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, on est au mi-temps du festival, ça a l'air de très bien se passer, et on vous souhaite une très belle deuxième partie de festival.
Merci.
Take your bitch.
If I'm shining, everybody gonna shine.
don't even gotta try. I like shouting, make it better over time.
De Lizzo dans le mag de l'été sur France Inter depuis le festival de Locarno où nous sommes en direct. Alors Agathe Bonitzer, vous êtes vous très cinéphile. Que représente pour vous un festival comme Locarno ?
Ben, gros festival, mm-hmm. un festival où beaucoup de gens ont envie d'aller ou sont ravis d'avoir été, je crois.
Vous, vous étiez déjà venue comme, juste comme spectatrice au festival ?
Ouais, j'étais venue comme accompagnante plus exactement mm-hmm. l'année dernière. Et comme spectatrice aussi, bien sûr.
Parce
et
que déjà, vous êtes arrivée, je crois, très récemment, enfin avant-hier.
Je suis arrivée il y a 2 jours, ouais.
Et vous avez déjà vu 3 ou 4 films.
Ah, j'ai vu pas mal de films, ouais. Ouais. Et puis, voilà, je suis très contente.
Alors, vous présentez ici en compétition internationale le film de Damien Manivel, Les enfants d'Isadora. Isadora pour Isadora Duncan, une artiste majeure, hein, danseuse, chorégraphe, pédagogue, qui à la fin du 19e et au début du 20e siècle a inventé en quelque sorte la danse libre. Elle a été une précurseuse de la danse moderne. Est-ce que vous connaissiez sa recherche artistique avant le film?
Franchement, pas bien. Je pense que comme la plupart des gens, je connaissais surtout sa mort tragique, oui. malheureusement.
Sa mort tragique, parce qu'elle a été donc
étranglée par son écharpe. Et voilà. Et du coup, je connais un peu mieux. Voilà.
Alors, Isadora Duncan, elle a eu effectivement une vie tragique, mais une vie aussi incroyable, hein, ouais. tant par l'audace absolue de ses choix, de sa liberté totale, que aussi donc par les drames qu'elle a éprouvés, donc au-delà de sa mort, avec les 3 enfants qu'elle a perdus, hein, deux enfants qui ont été noyés en fait dans la Seine tout petit, et puis un autre enfant qu'elle a perdu après, juste après sa naissance. Alors le film de Damien Manivel n'est vraiment en rien un biopic sur Isadora Duncan. Il se concentre sur un solo, La Mère, qui fait partie du triptyque Impression de Russie, créé lors de son séjour en Union soviétique en 1921, parce que en fait, Isadora Duncan, elle était aussi, la pédagogie était vraiment très importante dans son travail. Elle a créé 3 écoles, une à Berlin, une à Paris et une en Union soviétique, où elle souhaitait donner vraiment accès à l'art et à la culture pour tous. On va écouter un extrait de la bande-annonce des enfants d'Isadora.
Tertre et Patrick.
Après la mort de mes 2 enfants, je cherchais à composer une danse. Mais je ne trouvais plus le courage de faire le moindre geste.
Chaque geste a une signification. Donc j'ai besoin que pour toi, cette histoire, ce récit, tu te le racontes, il existe. Il faut que tu plonges dans cette histoire.
Je sens la tiédeur de mon propre corps.
Je vais y arriver.
Et je réalise que depuis la mort de mes enfants, ces mains ont été marquées à jamais par la tristesse. Comme j'aurais aimé que cet horrible accident fût transformé en beauté.
Alors ce solo, Agathe Bonitzer, c'est une diagonale, comme la trajectoire de la vie d'une femme, comme un duo aussi d'une mère avec son enfant. De quoi est-il porteur ce solo pour vous ?
De beaucoup de choses, et puis je pense que ça dépend aussi de chacun, de comment on le voit,
mais
de comment
vous,
on le ressent. Ah, pour moi ?
Oui.
Ben, très intime comme question. Il faut dire que ce solo, je l'ai beaucoup travaillé. J'ai répété avec une danseuse et chorégraphe qui est une spécialiste de Isadora Duncan, qui s'appelle Laetitia Doha. Et je suis passée par pas mal d'affres, parce que c'est très délicat de danser du Isadora Duncan.
Pourquoi ?
Parce que c'est une technique très très particulière, propre à elle. Ça peut être très ringard si c'est mal dansé, je trouve, personnellement. Et puis c'est tout en courbe, c'est tout en... Alors moi, je suis habituée à la danse classique, oui. Très rigoureuse. Bon, c'est très rigoureux aussi, hein, Isadora Duncan, mais Ça a franchement rien à voir.
Ça a rien à voir parce que la danse classique, c'est quand même très formel. Et là, on sent, en tout cas, on sent dans votre recherche, dans le film, que vous cherchez le geste juste, mais qui part vraiment de l'intérieur de vous. C'est d'abord éprouvé pour ensuite le formaliser.
Oui, c'est vrai que c'est proche du théâtre aussi, quelque part, ou peut-être... Alors et oui, il y a des écueils dans lesquels ne pas tomber. Il faut pas que ce soit du mime, il faut pas. Enfin bref. Et donc, mais au bout d'un moment, j'avais vraiment un grand plaisir à le danser. Enfin, en tout cas, à chercher à le danser, parce que en plus, c'est ça dont il est question dans le film. En fait, il s'agissait pas que je le danse parfaitement ou que j'y arrive. En fait, c'est juste la recherche de ce solo.
De ce solo
qui intéressait Damien.
Parce que le film est construit donc en trois temps. Donc le premier temps, c'est vous. Ou vous déjà, il y a trois façons de l'appréhender ce solo. Il y a d'abord la lecture. On vous entend lire le texte de Ma vie, hein, qui est l'autobiographie d'Isadora Duncan. Il y a cette première chose. Il y a la deuxième chose qui est la recherche de l'écriture, hein, qui a été notée par un langage qui s'appelle la notation Laban.
Laban.
Absolument, ouais. Laban, qui était un théoricien américain qui a donc écrit, qui a formalisé en fait l'écriture dansée. Donc il y a ces deux choses. Là, et puis ensuite, vous, dans le studio de danse, dans l'atelier, qui dansait ce solo. Donc, c'est trois façons d'appréhender cette danse-là.
Moi, j'ai pas vu le film, alors ouais. C'est intéressant de vous entendre, enfin, de t'entendre. Mmh. Je l'avais pas vu comme ça. En tout cas, ouais, je sais pas à quoi m'attendre, je vais découvrir le film demain.
Ben, c'est très beau, le film. Donc, il y a votre partie, en effet, qui à mon sens voilà fait appel à ces trois choses. C'est un film qui est silencieux, qui est contemplatif, qui prend son temps. Vous dans le film, vous n'avez pas de texte, vous êtes toute seule. Est-ce qu'on aborde un rôle comme ça muet de la même façon qu'un rôle activement parlant, je veux dire.
Il n'était pas censé être muet à l'origine en fait. Tout se fait vraiment en mouvement pour le coup avec Damien qui d'ailleurs est un ancien danseur qui a commencé comme danseur. Et ça se sent. Et il a une façon de diriger qui est très très particulière et de tourner, de réunir une équipe aussi.
C'est-à-dire pas particulière comment ?
C'est il produit ses projets. Enfin, il a un associé, mais enfin c'est une économie très réduite.
On est très
peu sur le tournage. Mm-hmm. Il y avait peut-être 5 ou 6 techniciens, Damien inclus, quoi. Mm. Et puis on sent que il est en constante recherche, en fait. Le film se construit au tournage et au fur et à mesure. Donc ce que j'avais lu ne correspondait pas forcément à ce qu'on tournait ensuite, et sûrement ne correspondra pas à ce que je découvrirai demain.
Et d'ailleurs, c'est en cherchant que, enfin, c'est dans le travail que le solo La Mer en fait est apparu, parce que c'est vous qui improvisiez, je crois, c'est ça. Et puis à un moment donné, vous avez fait un geste très lent.
Alors non, ça c'était avant.
Au début, aux prémices du projet.
Oui. Effectivement, Damien avait envie de travailler sur la danse. On s'était rencontrés, on avait décidé de travailler ensemble. Et effectivement, j'ai fait une improvisation, mais j'ai appris ça là il y a quelques jours. Et apparemment, un geste lui a donné.
À évoquer
Isadora Duncan pour une personne qui était là et qui en a parlé à Damien.
Alors, il y a donc trois temps dans le film, le vôtre. Donc, le vôtre qui est pour moi celui de. Dans les pas, je dirais, d'Isadora Duncan, vous qui l'éprouvez, qui êtes dans sa peau. Il y a un deuxième temps où une chorégraphe, Marika Rizzi, est avec une jeune femme, Manon Carpentier, où c'est le temps de la transmission, parce qu'elle lui enseigne ce solo, une jeune fille trisomique. Mm-hmm. Et puis ensuite, il y a un troisième temps, qui est le temps de la spectatrice, qui est Elsa Voliaston, qui elle a vu le spectacle de la jeune fille avec Marika Rizzi, et qui rentre chez elle lentement le soir, et cette danse se dépose en elle. Mm-hmm. Donc c'est une construction très particulière. Je sais que vous n'avez pas encore vu le film parce qu'il
s'approche tellement. Je connais la construction quand même.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le choix de cette construction et sur le...
Ah bah ce serait pas à moi d'en parler. J'imagine que c'est voulu. Ça n'était pas non plus au tout début du projet, mais je crois que c'est quand même venu. En tout cas, c'était là avant le tournage et ils ont tourné. Séparément les trois parties quoi
du les trois parties
triptyque.
Ouais. Très bien.
Qu'en dire d'autre
que... Qu'en dire d'autre, bah, qu'il faut voir le film parce que c'est un film d'une grande sensibilité et dont il y a une très belle émotion qui se dégage. Voilà. C'est le moment, Agathe Bonitzer, de nous pencher sur l'actualité des jours à venir, des rendez-vous repérés par l'équipe du Mac de l'été.
Oh, dis donc, et ça, c'est l'antenne satellite.
Putain, fais gaffe. C'est un immobile, le Kundelich, c'est hyper fragile, ça.
Il y a un mois a ouvert à Montpellier le MOCO pour Montpellier Contemporain. Un lieu qui repose sur trois espaces. L'hôtel des collections, réservé à l'accueil exclusif des collections des autres, privées ou publiques, au rythme de trois par an. La Panacée, dévolue à la création émergente. Et l'école supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, dont les élèves participent au montage des expositions et rencontrent les artistes, les commissaires et les collectionneurs invités. L'art prend ses quartiers à Montpellier et de nombreuses expositions vous y attendent.
Et que ferais-je, mon pauvre scapin ?
Hier a débuté la 27e édition du Festival de théâtre de Noirmoutier en Lille, et ce jusqu'au 19 août. Le théâtre n'est pas le pays du réel, écrit Victor Hugo. Il y a des arbres de carton, des pays de toile, un ciel de haillons. C'est le pays du vrai. Il y a des cœurs humains sur la scène, des cœurs humains dans la coulisse, des cœurs humains dans la salle. Demain soir résonneront les mots des fourberies de Scapin de Molière dans la cour du château de la ville et dans une mise en scène du directeur du festival, Patrick Pelloquet. Sur le site du festival est écrit « Le temps est incertain, mais on joue quand même ». Retour à Locarno, où ce soir, à partir de 21h30, sur la Piazza Grande du festival, une Crazy Night est organisée avec la projection de Memories of Murder de Bong Joon-ho, invité d'honneur de cette édition, un chef-d'œuvre du cinéma policier coréen qui a fait connaître le réalisateur. Et son acteur fétiche, Song Kang-ho. Ce dernier recevra d'ailleurs ce soir l'Excellence Award, prix de l'acteur, et ils seront tous les deux nos invités demain soir dans le Mac de l'été. Rendez-vous à 18h sur France Inter.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Agathe Bonitzer, est-ce que vous avez le souvenir de votre première grande émotion culturelle, comme ce sera peut-être le cas ce soir pour de jeunes gens qui découvriront Memories of Murder de Bong Joon-ho?
Oh là là, une grande émotion. J'ai quand même un souvenir très 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 lointain, c'est d'avoir vu Bambi au cinéma avec ma marraine. Et j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps, mais pendant des jours, j'ai l'impression d'avoir pleuré pendant des jours et des jours, quoi. Mon émotion cinéma. Je pense que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma.
Premier choc.
Bambi de Walt Disney.
Merci beaucoup Agathe Bonitzer d'avoir été en direct avec nous sur France Inter. Je rappelle que le film de Damien Manivelle, Les enfants d'Isadora, sera projeté demain à 14h et qu'on pourra le découvrir en salle en novembre prochain. Nous accueillons maintenant Jeanne Balibar, Emmanuel Béart et Mathieu Amalric pour le film Merveille à Montfermeil, premier long métrage de Jeanne Balibar, présenté ici à Locarno dans la sélection Cinéaste du présent.
Anna Sigalevitch, le Mac de l'été sur France Inter.
Bonjour Jeanne Balibar, Emmanuel Béart et Mathieu Amalric.
Bonjour.
Bonjour.
Bonsoir.
Merci, bonsoir. Merci d'être avec nous sur France Inter. Vous présentez ici à Locarno, Jeanne Balibar, votre film Merveille à Montfermeil, dans lequel vous jouez tous les trois. Alors Merveille à Montfermeil, c'est une comédie, une sorte d'utopie satirique qui narre les aventures d'une équipe municipale dont vous êtes à la tête, Emmanuel Béart, puisque vous êtes la maire de Montfermeil, et qui tente de mettre en place un programme tout à fait original de démocratie locale et citoyenne. Alors le film embrasse de nombreux thèmes, c'est un film très inspirant. On en écoute un extrait, c'est au début, lorsque vous annoncez à vos électeurs, Emmanuel Béart, les premières mesures même que vous allez adopter.
Nous sommes une ancienne et merveilleuse localité qui certes au lointain 12e siècle n'était qu'une léproserie, mais c'est chez nous que dans une nuit profonde, Jean Valjean rencontra Cosette quand il cherchait de l'eau à la source du puissant. Chez nous que Jean-Baptiste Clément écrivit pendant la commune « Quand nous chauderons le temps des cerises ». Une localité donc qui a toujours su affronter les épreuves et relever les défis. Et c'est un grand honneur pour moi de vous présenter aujourd'hui les premières mesures. Oui. Bon, Joël. Ben, allez-y. Nous commencerons, comme promis, par renommer et renouveler les jours fériés.
Alors, mettez-vous bien à l'intérieur de vous-même et prenez bien la météo du jour, tenez bien le tempo et sentez bien à quelle place vous vous trouvez dans l'espace.
Alors donc dans le film, il y a plein de mesures qui sont prises. Il y a le fait donc d'apprendre énormément de langues différentes. Il y a la sieste qui est imposée. Oui, elle est obligatoire.
Elle est obligatoire.
Voilà. Il y a la sieste qui.
Non, elle est pas obligatoire. Elle est pour tous, mais rien n'est obligatoire à ce moment-là. On n'est pas. T'as pas encore versé dans.
J'ai pas encore versé.
Dans le totalitarisme, il y a quoi? Il y a quelle autre mesure?
Il y a les journées du kimono, de la jupe, du sarouel.
Et puis il y a la fête de la brioche.
Et la fête de la brioche.
Délicieuse ironie quand même.
Mais la fête de la.
Il y a le service d'assistance à la satisfaction sexuelle à domicile.
Absolument aussi.
Le SASAD.
Et l'agriculture aussi sur les toits.
Oui, agriculture urbaine, voilà. Ouais.
Alors, il y a cette phrase qui, pour moi, donne le ton irrésistible du film au début. 21 janvier, mort de Lénine et mort de Louis XVI. Donc, en toute logique, Jeanne Balibar, la journée de...
J'ai oublié la journée du Sarouel.
La journée du Sarouel, c'est extrêmement logique. Vraiment, ça donne le ton du film et de toute sa loufoquerie.
Oui, enfin de sa loufoquerie et aussi de sa pertinence,
si je peux me permettre,
parce que passer par Louis XVI, Lénine et les Sarouel, ça raconte aussi quelque chose de l'histoire de la vie politique.
Bien sûr, alors c'est un film où on a l'impression, Jeanne Balibar, que vous conviez tous les gens que vous aimez dans une sorte d'immense terrain de jeu.
Oui, c'est tout à fait ça. J'ai écrit les rôles pour Emmanuel, pour Mathieu, pour Florence Loireca et pour beaucoup des acteurs qui jouent dans le film. Et puis aussi pour tous les habitants de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil qui jouent avec nous. Parce que depuis 5 ans, on avait fait des ateliers. Emmanuel était venu, Mathieu était venu. J'avais travaillé avec... le chorégraphe Jérôme Bell et Emmanuel Parnin, qui est musicienne et musicothérapeute, et on avait fait plein d'ateliers. Donc, effectivement, l'idée, c'était qu'on puisse tous jouer ensemble et faire cette expérience.
Expérience. Voilà. Et en effet, ça semble très naturel, en effet, les rapports entre les acteurs dits professionnels et puis les habitants qui sont là, qui sont très présents dans le film et qui sont très importants. En effet, il n'y a pas vraiment de différence entre les acteurs et les autres. Tout le monde est ensemble. Ça, c'est une chose qu'on
pense. Je pense par rapport à la différence entre acteurs professionnels et non professionnels. Oui. Je pense que quand même, les acteurs professionnels, ils ont un savoir-faire. Hein. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de différence. Moi, je pense qu'ils ont un savoir-faire qui est celui de faire avancer une histoire. Et que après, là où il n'y a pas de différence, c'est dans ce qu'on peut offrir d'humanité à une caméra. Donc pour moi, c'était important qu'il y ait les deux, parce que je savais que avec des acteurs aussi extraordinaires que Ramzy, que Emmanuel, que Mathieu, que Valérie Dréville, que Florence Loirecaille,
que Marlène Sabella,
que je pouvais leur confier une histoire à faire avancer, et que moi je me chargeais par contre de faire exister tous les visages. Donc, et pour ça, les visages et toute l'humanité de la France, en fait. Voilà, c'était un peu ça, que eux ils prenaient en charge la narration et moi je prenais en charge de faire exister à l'écran tous les gens que j'aime, comme vous dites, en France. Voilà.
Il y a cette rencontre entre les acteurs et les habitants, puis il y a aussi la rencontre entre les lieux, parce que on confronte vraiment un univers à la fois poétique avec plein de choses, avec une réalité urbaine qui est très concrète et qui est très présente dans le film.
Oui, et aussi ce qui m'importait, c'était merveille. Si vous voulez, merveille, c'est un mot un peu du Moyen-Âge, la littérature du Moyen-Âge, qui veut dire les choses qui vous émerveillent, qui vous étonnent. Et pour moi, ces merveilles à Montfermeil, c'est vraiment tous les gens qui sont là pendant qu'on fait ce film, hein, les gens qui y habitent tout le temps et les acteurs avec qui on fait tous le film tous ensemble, mais aussi les lieux. Aussi l'urbanisme de ce grand Paris. Parce que je ne sais pas si vous avez trouvé comme moi, mais je trouve que la ville, elle est belle, la ville de Montfermeil.
Elle est étonnante, en tout cas.
Elle est vraiment... Parce qu'en fait, il y a partout de quoi s'émerveiller. Et on n'est pas obligé de considérer que ce qui est beau, c'est le 16e arrondissement de Paris. On peut trouver que ce qui est beau, c'est un urbanisme plus bizarre. Hein. Et qu'on peut y inventer de la vie.
En même temps, oui. Et en même temps, on tournait souvent dans la mairie,
où il y avait des files d'attente de gens qui attendaient pour un logement, ou pour, enfin, il y avait, on était aussi confrontés toujours non seulement par les lieux qui étaient habités par les habitants et qui continuaient à vivre. Donc nous, on tournait dans des lieux qui continuaient à vivre. Donc il y a ça, effectivement, la beauté et en même temps, la réalité, les mômes qui sont sur des mobilettes toute la journée et qui sont en déshérence. Il y a les gens, les files d'attente pour des logements. Moi, ça m'avait beaucoup marqué parce que j'avais été dans cet espace-là. Donc il y a ce mélange entre...
Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a tourné, par exemple, Mathieu l'a tourné dans un immeuble, Chêne Pointue, qui est un vrai scandale, où les gens payent 900 euros par mois à des bailleurs privés pour des logements complètement laissés à l'abandon. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire, on peut aussi montrer qu'il y a... parce que la fiction, c'est toujours un petit bout de la réalité, en fait, moi, je pense. C'est la réalité qu'on n'a pas pris toute la réalité, on a pris un petit bout. Et on peut aussi prendre un petit bout merveilleux de cette réalité et dire, voilà, réfléchir aussi à qu'est-ce que c'est un lieu privilégié. C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui sont complètement abandonnés par les pouvoirs publics d'une façon absolument dégueulasse, où on sait bien qu'on n'avait aucun argent pour les logements, beaucoup moins pour un lycéen de Montfermeil que pour un lycéen du lycée Henri IV
très
à Paris.
Très peu de transport, par exemple,
pas de transport,
c'était très
rien du tout. C'est des lieux complètement scandaleusement abandonnés par le service public et l'économie de la nation, mais qui en même temps regorgent de merveilles. Et comme moi je faisais une utopie satirique, comme vous avez dit, je voulais les montrer, ces merveilles.
Et on les sent aussi, parce qu'on sent que vous voulez, que vous dites que tout le monde peut avoir droit de cité et que tout le monde peut vivre ensemble. Ça, c'est une chose que vous dites, Mathieu Amalric. Dans le film, vous faites partie de l'équipe municipale. Vous êtes un peu à la tête du pôle qui s'occupe de réfléchir aux actions à mener pour les citoyens, comment les intégrer, comment organiser ce vivre ensemble. Et vous faites le tour des maisons pour réintégrer les gens qui se trouvent un peu exclus. Vous dites que les personnes chassées deviennent tout d'un coup très recherchées.
Désirables.
Vous inversez, désirables. Vous inversez et vous croyez, en fait, à la vie ensemble et au fait que chacun peut trouver sa place. C'est vraiment un des enjeux du film.
Mais oui, je crois que c'est ça le trouble du film de Jeanne, c'est que ça peut paraître être une utopie, mais finalement l'utopie et la réalité, ou ce qui devrait être possible, finit par être très très proche. Et il y a un moment étonnant dans le film où le personnage d'Emmanuel, comme ça, dit « mais les gens sont fous ». Alors que, évidemment, comme c'est une comédie qui, a priori, semble loufoque, on se dit, on est en train d'assister à un conseil municipal et une nouvelle équipe qui n'existerait pas dans la vraie vie. Et à un moment, lorsqu'on rentre, on est dans le film, on s'est dit, mais non, c'est nous qui sommes fous. C'est comme ça
que
la politique ou que la vie commune devrait exister, d'où cette histoire de divorce. Enfin, c'est une comédie de remariage. Et où serait la comédie de remariage entre la croyance dans le politique et la population? Il y a plein de choses comme ça que j'aime.
Ils sont abordés, non, mais il y a plein de thèmes, hein, c'est sûr. Oui. En effet, vous parlez de la comédie de
remariage. La comédie, le suicide, la dépression, c'est très riche.
Mais parce que aussi il y a quelque chose qui il y a des dérapages où ces personnages deviennent dingues d'impuissance aussi face à la réalité. Donc il y a enfin, en tout cas dans mon personnage, il y a vraiment cette volonté, ce décalage permanent avec ce qui est possible de faire et ce qui ne l'est pas, déplacer les lignes. Donc voilà.
Parce que Jeanne est partie que de choses existantes. C'est une fiction, mais comme elle dit, il y a de la réalité.
Il y a de la réalité.
Toutes les propositions sont des choses.
Mais toutes les propositions les plus baroques que fait le personnage d'Emmanuel, en fait, sont des choses qui existent dans la réalité de la France aujourd'hui, mais à un endroit où elles sont à la fois nécessaires et absurdes. Et bon, c'est vrai ce que dit Emmanuel. Moi, ce qui, au fond, je m'en suis rendu compte surtout quand je l'ai vu terminer le film. Je me suis dit, c'est un film sur comment le monde nous rend fous. Et qu'est-ce qu'on fait de cette folie et où elle est vraiment, quoi. Peut-être un peu bizarre de dire ça, mais un peu comme chez Shakespeare, où il y a toujours des personnages de fous qui, du coup, nous font questionner l'endroit de la folie, quoi.
Et il y a aussi le fait que vos personnages, à un moment donné, votre personnage, Emmanuel Béart, il bascule. il bascule parce que au départ, donc, vous avez de très bonnes intentions, mais il y a à un moment donné quelque chose qui va loin, qui bascule presque dans le totalitarisme. Il y a une citation que je trouve très importante dans le film, c'est celle de Vie et Destin de Vassili Grossman, parce que donc vous convoquez ce livre de Vassili Grossman, qui était donc un auteur juif russe qui au départ, donc après l'horreur de la Shoah, a cru dans le communisme. Il était un auteur officiel, en fait. Et puis, il s'est rendu compte de ce qu'était la réalité du communisme. Et donc là, ça a généré ce livre « Vie et destin ». Donc, c'est aussi le danger des utopies qui basculent et qui virent. Enfin, vous parlez aussi de ça, me semble-t-il, Jeanne Balibar.
Bah, c'est-à-dire que oui, mais comme c'est une comédie, voilà, c'est vrai que bon, bah, c'est les choses dans une comédie, on les évoque aussi en filigrane et en même temps, on essaie que ce soit touchant. Donc, c'est vrai qu'il y a Vassili Grossman qui arrive à un moment dans le film et juste après, Emmanuel est au téléphone et elle dit, les gens vont croire que je veux les mettre dans des camps. Et elle fait une tentative de suicide et en même temps, tout de suite, derrière, Florence Warrecaille arrive et ressaisit la comédie, ben c'est ça le plaisir et je trouve la beauté de la comédie, c'est de pouvoir évoquer les choses les plus graves et notamment cette réalité de France d'aujourd'hui oui. Où il y a des gens qui sont mis dans des camps aussi et où il y a aussi des ghettos et des camps de migrants
oui,
et des ghettos de
bien sûr.
Mais cette réalité de l'évoquer par le biais de la comédie en la faisant
en décalant aussi
en beaucoup, la décalant ouais, plus possible
parce que dans le bureau d'Emmanuel Béart il y a à la fois le portrait d'Emmanuel Macron et le buste de Staline
de Lénine
oui, c'est ce que je voulais dire excusez-moi il y a les deux donc il y a aussi enfin vous vous amusez beaucoup avec ça et c'est toujours avec beaucoup de légèreté.
Mais c'est vrai qu'au milieu, je la mêle avec une robe rose, avec une musique merveilleuse. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire de dire la politique, on nous sert des fictions macroniennes, on nous sert des fictions plus estimables, à mon sens, mais aussi très dangereuses avec Lénine. Mais au milieu, il y a cette possibilité de cette femme. Et ça raconte quelque chose de nos désirs à tous, je pense.
Emmanuel Béart, on vous découvre pas dans cette facette-là, mais quand même, vous poussez très loin la comédie dans le film. Il y a notamment une scène de délire qui est assez mémorable. Comment, toutes les deux vous connaissez bien, faut le dire. Hein. Vous étiez Emmanuel Béart déjà dans le premier film que vous aviez co-réalisé, Jeanne Balibar. Vous avez joué toutes les deux au théâtre avec Stanislas Nordet dans Parler Village. Enfin, voilà, vous vous connaissez. Parce que du coup, c'est une actrice qui dirige une autre actrice. Comment est-ce que vous êtes allé vers cette folie et ce délire, Emmanuel Béart?
Très naturellement, dans le fond, parce que tout simplement, il y a chez moi quelque chose de très concret, de très tellurique, et en même temps un décalage permanent. C'est-à-dire que je suis capable d'aller enregistrer dans un studio où il n'y a pas de micro et de personne pour m'interviewer. Je suis comme ça, je suis capable, je prends toujours les mauvaises portes, les mauvaises voitures, les mauvaises... Donc en fait, Jeanne a été chercher ce qu'il y a de plus décalé en moi et qui existe. Et donc, du coup, une sorte de jouissance que ça puisse exister dans un film. Moi qui ai joué beaucoup de rôles très sérieux, très... Cela dit, elle est très sérieuse. Elle est très obsessionnelle sur des choses très importantes, en fait, réellement très importantes. Sauf qu'elle en fait, elle fait des fixettes sur des choses pendant que les autres continuent à vivre. Elle reste bloquée.
Mais si je peux me permettre, moi je pense que les très grands acteurs qui ont énormément de possibilités, je pense qu'on ne les distribue pas, ou du moins c'est pas important. Je pense qu'en fait c'est des gens qui rendent des film possible. Et moi, j'ai pu faire ce film parce que j'avais décelé chez Emmanuel, parce que j'ai écrit le rôle pour elle, et parce que, en fait, excusez-moi, j'embraye sur ce qu'elle disait sur le sérieux. Le comique, ça n'est comique que si les gens prennent très au sérieux le fond de l'affaire.
Bien sûr.
Et donc, il y avait qu'elle qui avait ce sérieux qu'elle a montré dans toutes les occasions de la vie public et aussi quand on s'est vu dans des occasions plus privées ou de travail, je me suis dit tout de suite, avec ce sérieux, il y a un potentiel de comédie dément. Et c'était pour moi ça qui fondait la possibilité d'écrire ce personnage. C'est-à-dire, ce personnage, s'il n'est pas ancré dans une manière de prendre très au sérieux la réalité du monde, le film n'a aucun intérêt. Et c'est ce qui le rend, je crois... J'espère qu'il est beau. Moi, je le trouve beau. Je trouve son personnage bouleversant. S'il y avait un micron de moins de sérieux, il n'y aurait rien de bouleversant là-dedans. Et donc, il n'y aurait rien de drôle.
Je crois.
Même c'est comme c'est un, ça qui un shérif qui porte les autres jusqu'à tel point
jusqu'en elle devenir
porte
folle,
tout,
oui.
toute seule. Et elle ne dit pas ce qu'elle porte. Et du coup,
c'est la solitude.
C'est pour
aussi,
ça que parce que cette politique est menacée. Il y a des menaces parce que c'est une vraie fiction.
Dans un film,
il y a des méchants. Il y a des attaques. Il y a de l'amour. Il y a de l'aventure. Il y a de tout. Et elle, c'est vraiment comme c'est presque Liberty Valance, c'est-à-dire elle ne dira jamais ce par quoi elle est passée. Et les gens vont le découvrir après, notamment le personnage de Florence, Loricaille.
Loricaille qui... Ouais. Alors, Florence Loricaille, il faut parler de son personnage de Juliette Berthaud. Hein, parce que donc, il y a quand même Laura de Rivette qui est vraiment convoquée, je trouve, qui est conviée, qu'on sent dans le film.
C'est vrai.
Emmanuel Béart, vous êtes évidemment une actrice rivettienne. Vous aussi, Jeanne Balibar, Bulogier aussi. Et donc, vous allez jusqu'à pousser le nom du personnage de Florence Loricaille. Vous l'appelez Juliette Berthaud.
Non, c'est incroyable que vous disiez ça.
Bah, c'est pas ça?
Mais non.
Non.
Mais si, mais ça s'affiche sur le bureau.
Non. Mais c'est dingue que vous disiez ça, parce que en fait, moi j'ai dit, peut-être vous l'avez lu, que j'ai dit quelque part que je pense que en fait de toutes ces femmes de Rivette qui sont dans le film, et c'est pas seulement Bulle, ni Emmanuel et moi les actrices, mais c'est aussi Martine Marignac, la productrice du film. Et Margaret Ménégoz et Régine Vial, les distributrices du film. Donc c'est vrai qu'il y a c'est un film. Et Bulogier, elle a dit, ce film, c'est Seven Women, le dernier film de Ford, La frontière chinoise. Et quand elle a dit ça, j'ai dit, mais pourquoi? C'est pas un film avec que des femmes. Et en fait, c'est vrai que c'est un truc, des femmes de Rivette sur cette frontière chinoise, peut-être. Et après, quand dans l'interview, j'ai dit, pour le dossier de presse, j'ai dit, mais en fait, la plus rivettienne de toutes, si ça se trouve, c'est Florence Loirecaille.
Qui n'a pas joué dans...
Qui n'a jamais joué dans aucun film de Rivette, mais qui entretient un rapport de si profond avec Juliette Berthaud. Elle me l'a dit. Je le vois, je l'ai constaté sur le plateau.
C'est bizarre, j'ai eu l'impression qu'elle s'appelait, que le personnage s'appelait...
Le personnage Juliette, j'y avais jamais pensé. Et elle s'appelait pas Juliette Berthaud quand même dans le film. Elle s'appelle Juliette Bedoux.
Ah, c'est dingue. Mais moi, c'est très étrange ce que j'ai pensé.
C'est dingue,
Moi, je l'ai pris comme ça. Mathieu Amalric, vous, donc c'est la première fois que vous êtes dirigé par Jeanne Balibar. Les rôles s'inversent un peu. Vous, Jeanne Balibar, vous avez joué dans trois films de Mathieu Amalric, Manche ta soupe, Le stade de Wimbledon et bien sûr Barbara récemment. Est-ce que cette inversion vous a troublé, Mathieu Amalric, le fait d'être dirigé maintenant?
On ne pense pas du tout inversion.
Ce nouvel échange, ce nouveau rapport.
On a une messie. Elle va loin. Elle va très très loin.
Oui.
Elle fait des choses. Elle nous emmène, Emmanuel,
dans des endroits
qu'on ne pouvait même pas imaginer explorer.
Elle devine des zones. Oui. Elle devine des zones de nous qu'on n'avait jamais imaginé ni osé, je dirais.
Exploiter. Oui, c'est ça.
Oser
imaginer.
Oser exploiter.
Oui. Mais c'est ce qu'on sent.
Regardez la scène de l'escalier où Emmanuel tout d'un coup découvre quelque chose de sa voix que Jeanne amène à faire.
Mais bien sûr.
Et moi, pareil, elle m'a mis dans des situations Mais tu as l'impression que tu ne sais pas faire ça. Et il faut aller piocher, détruire tous les clichés, toutes les facilités dans lesquelles on est. Elle nous connaît tellement bien qu'elle dit, maintenant tu arrêtes avec ton regard de merde, t'arrêtes ce regard, ton regard c'est ta marque de fabrique, maintenant je veux plus ça. Tu joues comme Clint Eastwood, tu fermes les yeux. D'accord? Je veux plus ton regard. Et waouh! Donc elle vous déshabille entièrement.
Oui.
Et elle va attraper une chose qu'on découvre quand on voit le film, quoi.
Dans une scène, pardon, très très importante, ça m'a marqué, je ne cesse de le répéter à Jeanne, mais je continue à vivre avec ça et j'ai fait un autre film après en pensant à ça. Dans une scène extrêmement importante, difficile, douloureuse, elle m'a demandé de penser à la bretelle de mon soutien-gorge qui tombait. Et ça a complètement changé, tout d'un coup, mon rapport aux mots.
Ça vous a décalé, ça vous a...
Aux mots. Ouais. J'avais plus du tout mon rapport au corps, aux mots. Ouais. J'étais dans un autre espace et j'étais obsédée. De toute façon, elle est très obsédée en général, ce personnage. Mais là, j'étais vraiment obsédée par ma bretelle de soutien-gorge qui ne tombait pas, mais qui dans ma tête tombait. Et donc, du coup, ça donne quelque chose de complètement... Voilà, elle va provoquer, elle va convoquer des choses que moi, je n'imaginais pas. Et donc... que je n'ai jamais vu de Mathieu, que je n'avais jamais vu de Ramsey, ni de Florence. Enfin, on est tous
Oui, Valérie aussi, elle est complètement étonnante. Enfin, en effet, vous êtes tous très très étonnants dans le film, et on sent que vous êtes surpris vous-même par ce qui se passe. Alors, il y a aussi, je trouve, un amour du théâtre qu'on sent très fort dans le film. Le film est théâtral, par d'abord la scène des méchants, hein, enfin, c'est pas la scène des méchants, mais ce qui se dessine en filigrane des méchants par Bulogier. C'est comme une scène de théâtre, c'est comme un décor de théâtre. Il y a vraiment de la fiction qui est ajoutée à la fiction, je trouve, dans ces scènes-là. Et on sent en effet qu'il y a, comme au théâtre, pas peur de l'excès, pas peur du ridicule, une idée de sortir vraiment du cadre habituel. Est-ce que c'est une chose que vous avez moyennement convaincue?
Si, je suis complètement d'accord avec vous, mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ce rapport-là à la théâtralité dont vous parlez, il est directement pris dans la comédie hollywoodienne des années 40. C'est un film qui d'une certaine façon est une espèce de remake de Shop Around the Corner. Enfin, je veux dire, chez Lubitsch par exemple, ou chez Macaré ou chez La Cava, il y a cette théâtralité avec il fait faire à Catherine Hepburn, à Ginger Rogers, à James Stewart des trucs de théâtre au sens où vous dites là. Et donc moi c'était ça mon modèle, voilà. C'était pas le théâtre que je connais de moi faire du théâtre, non, c'était le théâtre dans le cinéma américain.
Oui, ça va tellement chercher dans les profondeurs et dans le combat aussi qui est le nôtre et dans l'importance de réussir quelque chose et pour moi il y a rien de théâtral. Alors j'ai jamais eu la sensation d'être théâtrale. J'ai eu l'impression d'aller chercher très loin dans le ventre, dans le cœur, dans l'esprit, mais j'ai jamais eu l'impression qu'on était dans un jeu théâtral. Après, pour moi, le théâtre n'est pas.
Le théâtre permet le cinéma, peut-être plus timide, aurait tendance toujours à naturaliser.
Exactement.
Et que Jeanne va chercher dans ce que. Oui.
Ouais. Mais c'est vrai que dans plein de films qu'on aime, je pense, il y a des moments de. Il y a un rapport au théâtre, quoi. C'est ça, c'est intéressant.
Et il y a un rapport
au
rythme, exactement, et aussi à la polyphonie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une scène puis une autre, il y a souvent des doubles plans, à la fois visuellement, à la fois dans le son, à la fois même dans la langue. Moi je trouve que c'est très intéressant ce que vous faites avec les langues, et ça on a envie d'y croire beaucoup, enfin l'échange possible grâce aux langues, parce que les langues qui sont quand même convoquées dans le film, s'il y a du soninké, il y a du roumain, enfin il y a de l'arabe, il y a un petit bout d'allemand je crois, enfin en tout cas il y a un rapport à la langue, donc, comme langage, et puis la langue poétique, qui aussi met en place plein de plans et une polyphonie qu'on voit peu au cinéma.
Ouais, et même la langue inarticulée, le grommelot, comme on dit dans la Commedia dell'arte, avec tous les sons de... Bah oui, c'est-à-dire que c'est la mesure principale prise par cette municipalité, c'est de créer une école des langues, puisque à Montfermeil ils sont parlés 62 langues. Donc l'idée c'est on va inverser. Pourquoi les gens vont toujours apprendre l'anglais? On va apprendre les langues qui sont ici et ça va rapporter plein de fric à la municipalité et on a une énorme richesse et une énorme potentialité. Et c'est vrai que je pense que économiquement c'est très vrai. Hein, ça commence. Moi, je crois que bientôt tous les business avec les pays anglo-saxons va s'arrêter, puisque de toute façon, c'est que des trucs criminels qui détruisent la planète et qui tuent les gens. Donc, il est temps qu'on arrête d'apprendre l'anglais et qu'on apprenne le soninké, le bambara, toutes les langues de toutes les autres régions du monde qui ont des choses à nous apprendre et pour pouvoir ouvrir une porte sur l'avenir.
Merci beaucoup Jeanne Balibar, Emmanuel Béart et Mathieu Amalric. On souhaite vraiment beaucoup de succès à merveille à Montfermeil. Est-ce qu'il y a déjà une date de sortie prévue?
4 décembre, je crois.
4 décembre, très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Inter.
Le Mac de l'été sur France Inter.
A été préparée par Élodie Royer, elle a été réalisée par Clément Baudet avec à la programmation musicale Elsa Béranger. Un grand merci aux équipes techniques de Radio France et de la RCI, la radio publique suisse, Mattia Brioschi, Théo Zanetta, Tiziano Trotto, Allo Carno et Stéphane Boja à Paris. Merci beaucoup aussi à Chloé Lorenzi. Vous avez rendez-vous après le journal avec Eric Delvaux pour le téléphone sonne. Bong Joon-ho, Song Kang-ho et Olivier Zaba seront nos invités demain. Bonne soirée sur France Inter.